franceinter.fr.
À la une de la science, Néandertal, amateur d'art rupestre.
On est allé voir une expo de manga pariétal avec les 4e B. J'ai rien compris à tous leurs trucs, moi. Des parois qu'il faut lire de droite à gauche, des graffitis dans tous les sens. Bonjour le bazar.
De mon temps, tout était beaucoup plus lisible. Les jeunes hominidés n'avaient accès qu'à la peinture rupestre franco-belge. Alors bien sûr, c'était une vision un peu simpliste de l'évolution, mais ça avait le mérite de la clarté.
Extrait de Silex and the City. Les plus anciennes peintures rupestres sur les parois de 3 sites archéologiques en Espagne viennent d'être datées à environ 65 000 ans. Elles ont donc été réalisées 20 000 ans avant l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. L'un des chercheurs qui a participé à ces travaux parle, je cite, d'une découverte absolument exaltante qui suggère que les hommes de Néandertal étaient beaucoup plus évolués que ce que l'on pensait. Ces travaux viennent d'être publiés dans la revue Science et on en parle, Agnès, avec notre invitée.
Marilène Patou-Matisse, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes préhistorienne et directrice de recherche au CNRS. Les chercheurs se sont donc intéressés à des motifs qui ornaient les parois de 3 grottes espagnoles, grottes occupées depuis au moins 100 000 ans. Alors, quel type de peinture ont-ils analysé et qu'ont-ils découvert?
Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est surtout des tracés, des points. C'est des figures géométriques, on va dire. Et aussi une main. Alors, malheureusement, les peintures n'ont pas très souvent les dater, sauf quand elles sont réalisées, donc avec par exemple du charbon de bois, on peut faire des datations directes.
Et sinon, carbone 14.
Carbone 14, exactement. Et sinon, il faut avoir la chance d'avoir des couches qui recouvrent ces peintures, des couches notamment à base de carbonate, donc de calcite. Et c'est ça qui sont datées. Et ici, dans le cas des trois sites espagnols, c'est justement ces carbonates, ces calcites, qui ont été datées. C'est pour ça que les peintures, comme elles sont recouvertes par ces carbonates, sont plus anciennes qu'eux. Et c'est là où certains de mes collègues, notamment les géochronologues, moi je ne suis pas géochronologue, discutent pour savoir si cette méthode, donc à base d'uranium-thorium, c'est-à-dire les isotopes d'uranium et de thorium, est-ce qu'elle est valable, est-ce qu'il n'y a pas d'impuretés, des choses qui changeraient, qui modifieraient ces dates, voilà où on en est, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont plus âgées donc que 65 000 ans.
Oui, c'est ça. Donc, elles sont antérieures
tout à fait
à l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. Donc, antérieures d'au moins 20 000 ans.
Ah oui. Oui, oui.
Donc, on est sûr que ce n'est pas Homo sapiens qui a fait ces peintures rupestres. On est sûr que c'est Néandertal.
Si les dates sont confirmées, c'est sûr. Là, il n'y a pas d'Homo sapiens du tout à cette période-là. Surtout, en plus, là, c'est des sites en Andalousie pour certains. Donc, là, il y a vraiment une certitude. Il n'y a pas Homo sapiens.
Et ces représentations géométriques de couleur ocre, rouge un peu, elles font écho à d'autres formes de peinture déjà découvertes?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, bien sûr, ça fait un peu le scoop, hein, c'est écrit dans Nature. Mais en réalité, on a déjà trouvé. On a eu déjà des indices. Par exemple, Michel Lorblanchet, un grand spécialiste de l'art pariétal, s'était déjà interrogé en disant c'est pas possible que la peinture émerge comme ça d'un seul coup avec l'homme moderne. Il y a probablement des prémices, et notamment dans la Grotte des Merveilles, dans le Lot. À Cugnac, on peut aussi réfléchir sur des tracés vraiment de doigts, hein, tout simple, sur des stalactites. On peut penser ça aussi dans la grotte de El Castillo, où il y a un point qui a été daté, là aussi, de 45 000 ans. Bref, il y avait quand même des indices avant. Et alors, ce qui me fait sourire, c'est que dans la France, oui, en fin de compte, les Néandertaliens, ils n'étaient pas si bêtes que ça, quoi. Mais il y a longtemps, quand même. Enfin, je veux dire, ça fait un moment que je suis avec eux. Il y a longtemps qu'on a mis en évidence, quand même, que les Néandertaliens savaient faire des tas de choses. Ouais. Non, par contre, la nouveauté, c'est quand même tout cet aspect symbolique et peut-être cet aspect esthétique. Donc, est-ce que les Néandertaliens ont réalisé des peintures pariétales? C'est la grande question. Et là, il y a quand même un faisceau d'indices.
Là, en tout cas, vous, ça vous surprend pas du tout, cette fibre artistique de Néandertal? Ou bien ça vous laisse indifférente?
Alors, artistique, je sais pas, parce que nous, on parle d'artiste, mais je pense qu'il y avait, on avait beaucoup plus de symboles, c'est pas l'art pour l'art, comme on voit. Non, ça m'étonne pas, parce que je crois qu'il faut être très ouvert. Pourquoi se pose-t-on pas la question pour quand c'est les hommes modernes? Pourquoi on a décrété? Tout à l'heure, on parlait des idées reçues. C'est intéressant, parce qu'on a toujours décrété, en fin de compte, même si on les datait pas, que toutes les peintures, toutes les gravures pariétales, paléolithiques, étaient Homo sapiens. Mais pourquoi.
Parce que c'est nous qui sommes restés et qu'eux ne sont plus là pour se défendre et pour se mettre en valeur.
Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a des a priori, il y avait des préjugés qui font que c'était pas possible. Et plus ça va, plus on découvre. Donc, il y a des tas de choses qu'ils savaient faire et pas seulement l'homme moderne. Du coup, on a ouvert un peu les yeux. On s'est dit, tiens, ils peuvent peut-être faire ça. Et du coup, quand on a les yeux ouverts, eh ben, on voit que c'est, on cherche et donc on trouve. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Alors, bien entendu, par rapport à cette publication, on peut toujours discuter, les datations, c'est vrai, c'est pas vrai, mais je pense quand même que c'est des gens sérieux, il y a beaucoup de datations, c'est pas une seule, c'est trois grottes différentes. Mmh. Hein. Une en Cantabrie, les autres en Andalousie, je veux dire, c'est pas seulement dans une grotte. Donc il y a un faisceau d'indices, et je pense que là, il faut un peu s'ouvrir l'esprit et peut-être sortir de certains préjugés.
Je peux demander, je peux profiter de la présence de Florian Gouttière qui justement dans son livre hein, Santé, science, doit-on tout gober, nous invite à réfléchir à la façon dont nous sont présentées les informations scientifiques. Dans ce cas précis, il y a un doute justement, il y a un doute. La datation, certains scientifiques disent, elle n'est pas forcément juste. Alors, comment on aborde une information scientifique comme celle-ci? Les hommes de Néandertal ont fait des peintures rupestres. Certains nous disent, c'était eux, c'était il y a 65 000 ans. D'autres nous disent, la datation n'est pas fiable. Comment on parle de tout ça?
On s'intéresse justement où en est le consensus scientifique et si ici les experts justement ont des doutes et ont des vrais arguments. En l'occurrence, c'est le cas. Il y a des c'est pas une petite étude isolée écrite par des anonymes qui amène à ces conclusions. Donc on avance avec du conditionnel en précisant justement que les dates sont pas. On n'a pas un appareil qui nous dit c'était le 6 mars et moins oui. Et quelques. Voilà, il y a ces marges d'erreur et en parler juste. L'annoncer, bah ça c'est faire une information scientifique correcte, montrer que voilà, la science est en train d'avancer sur ce sujet.
Une dernière question Agnès ?
Oui, pour mieux connaître Néandertal et puis le réhabiliter un petit peu. Dans votre ouvrage, vous dites, Néandertal de A à Z, qui vient de paraître, vous dites « Refuser la possibilité que les Néandertaliens aient eu une pensée symbolique et des aspirations esthétiques, c'est sous-entendre qu'ils n'avaient pas de comportement autre que ceux liés à leur subsistance. Quels sont ces autres comportements qu'on lui connaît ? À notre ancêtre lointain.
Oui, donc il y a énormément de progrès parce qu'on a la chance non seulement de faire des fouilles et de découvrir de plus en plus de vestiges archéologiques parce que nous, les scientifiques, on travaille sur des faits. On ne raconte pas des belles histoires. On est sur des vestiges qu'on analyse. Et on a la chance d'avoir de plus en plus de découvertes, de plus en plus de matériel et surtout des moyens d'investigation sophistiqués. Ouais. Maintenant, on a des techniques qui nous permettent de faire de la biogéochimie, qui nous permettent de l'ADN ancien. Et donc, il y a plein de choses qui s'ouvrent. Et dans ces découvertes, par exemple, vous parlez de la symbolique, il y a des choses extraordinaires. On a découvert, par exemple, qu'ils prélevaient les plumes des oiseaux, mais pas n'importe quels oiseaux. Et on savait qu'ils mangeaient des oiseaux, mais certains oiseaux n'ont pas été mangés. Par contre, on a récupéré les premières amiches, les grandes plumes. Donc là, c'est sur des rapaciurnes. On a en même temps aussi prélevé, ils ont en même temps prélevé des cerfs.
Oui. Vous êtes complètement passé du côté obscur.
Je me dépêche. Sérieusement. Donc au niveau des cerfs aussi, des rapaces, d'urnes, donc c'est pas n'importe quel oiseau. Mmh. Il y a Bruniquel quand même, la grotte de Bruniquel en Tarn-et-Garonne, où on a les deux structures très importantes en stalagmites, donc ont été faites par les Néandertaliens dans ce monde souterrain, parce que c'est très loin de l'entrée, qui montrent que c'était pas un habitat, il y avait juste des foyers et c'est tout. Ça veut dire qu'ils ont été faire quelque chose, quoi, je ne sais. Donc il y a plein d'indices, un faisceau qui commence vraiment à être grand, qui nous permettent d'ouvrir un peu nos recherches, d'essiler un peu les yeux et de se dire, bon, il y a peut-être des possibilités, donc ouvrons le champ des possibles et travaillons pour voir si c'est oui, si c'est non, et l'avenir dira, confirmera ou infirmera.
Et pour mieux le connaître.
Ouais. Pour mieux le connaître.
Merci Marie-Hélène Patoumatis. Et pour mieux le connaître, je rappelle aussi l'apparition de votre dernier livre, Néandertal de A à Z, paru chez Alary Éditions, il y a moins d'un mois. Et merci beaucoup Agnès Fèvre. Une dernière petite chose.
Oui, juste, je voulais dire que nous préparons une très très grande exposition avec Pascal Depape, mon co-commissaire, au Musée de l'Homme, sur Néandertal, qui ouvrira le 28 mars.
Je suis sûr qu'on aura l'occasion d'en reparler dans La Tête au Carré. Merci à vous Agnès Fèvre et à très bientôt j'espère.
À bientôt.
Merci.
En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, plus de la moitié des océans sont exploités par la pêche industrielle. C'est ce qu'on peut voir sur une cartographie interactive publiée dans la revue Science. Une équipe de chercheurs issus d'universités et d'ONG a récupéré des masses de données sur les positions de 70 000 navires commerciaux entre 2012 et 2016. Ils ont identifié leur taille, leur puissance, leur type de prise et en somme toute leur activité. Il en ressort que la pêche industrielle exploite au moins 55% de la surface surface des mers. Au moins 55%, car les chercheurs n'ont pas pu analyser certaines zones et estiment que ce chiffre pourrait grimper à 73%. Qui sont les ancêtres de nos chevaux domestiqués? Jusque-là, on pensait que c'était les chevaux de bataille, apprivoisés il y a 5500 ans dans les steppes d'Asie centrale, au nord de l'actuel Kazakhstan. Mais l'ADN vient renverser cette idée. En analysant le génome de 22 de ces équidés, une équipe de chercheurs s'est aperçue qu'ils étaient plutôt les ancêtres d'une espèce, les chevaux de Przewalski, censés représenter les derniers chevaux sauvages. Et ils n'ont pu établir aucun lien de parenté avec les chevaux domestiques actuels. Enfin, si vous avez vu mercredi soir une boule lumineuse traverser le ciel un peu après 21h, vous n'avez pas rêvé et votre témoignage intéresse les scientifiques. Il s'agissait d'un météore évoluant à la vitesse de 12 km par seconde. Son passage a été observé depuis le nord-est de la France, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Visible 7 secondes seulement, il a été filmé par des caméras du réseau d'observation interplanétaire Fripon et d'une base d'observation amateur. Pour compléter leurs données, les astronomes invitent les témoins du phénomène à remplir un formulaire sur le site Vigiciel en lien sur la page Facebook de La Tête au Carré.